Je voudrais insister aujourd'hui sur la transgression anthropologique que constitue l'entrée des femmes dans la police. Donc c'est, j'en parle pas tout exactement dans ce livre, mais là je vais essayer de le formaliser. Donc dans toute société connue, il existe des travaux d'hommes et des travaux de femmes organisés selon le double principe de séparation et d'hiérarchie. Et donc avec la prohibition de l'inceste, la reconnaissance d'une forme d'union sexuelle, la division sexuelle du travail fait partie des trois piliers anthropologiques mis en évidence par Lévi-Strauss. Et donc si maintenant on rentre dans le détail même de cette division sexuelle du travail, elle repose en partie sur le monopole masculin du maniement des armes les plus sophistiquées. C'est une anthropologue qui a mis, enfin Paola Tabé, qui a mis ceci au jour. Et c'est un monopole qui connaît certes des exceptions, mais qui sont encore trop rares et qui ne suffit pas à changer les stéréotypes de sexe. Parmi ces outils, donc les outils les plus sophistiqués, les armes constituent un cas particulier. Elles font l'objet d'une interdiction redoublée qui s'est longtemps traduite par un verrouillage de l'armée et de la police, qui sont des institutions spécialisées dans l'usage de la contrainte physique. Et donc, on a longtemps été réservé aux hommes. Et donc, c'est à ce titre que la féminisation de la police m'a intéressée. Parce qu'elle, c'était une hypothèse, hein, qu'elle pouvait constituer la levée d'un interdit majeur dont il fallait mesurer la portée en allant au-delà du simple comptage des effectifs féminins. Et donc, j'essayais de m'intéresser au cœur de la transgression que constitue donc cet armement des femmes en temps de paix, puisque de manière officielle et au titre de fonctionnaire. Donc en d'autres termes, ma question était la suivante. Est-ce que les femmes ont accès au plein pouvoir de police ? Est-ce qu'elles usent en ultime recours d'une force coercitive non négociable, puisque telle est l'habilitation spécifique dont la police a le monopole dans nos sociétés ? Alors je vous fais un bref rappel des étapes historiques du processus de féminisation, parce qu'il est depuis les années 30, parce qu'il est assez fondamental pour comprendre le chemin parcouru. En 1935, la police municipale parisienne, sous la pression des féministes réformistes, recrute les deux premières femmes agents de police pour veiller sur la population féminine et les enfants errant dans les rues. Donc elles ne sont pas armées, elles ont juste une carte de police et elles sont très rapidement affectées à la brigade des mineurs avec le diplôme d'assistante sociale. Et donc elles n'ont pas le pouvoir d'exercer leur métier policiers dans d'autres types de brigades. Cette expérience locale ne prendra une dimension nationale qu'en 1968, en janvier, je précise bien, avant les événements de mai. C'est-à-dire je vous passe tous les détails parlementaires de négociation de l'ouverture de ce bastion au niveau national. Donc en 68, les femmes ont droit de passer le concours d'officier de police adjoint, qui est équivalent d'inspecteur. Et puis à partir de là, donc dans les années 70, s'ouvriront un à un tous les grades policiers. D'une manière assez originale, parce que la hiérarchie médiane et supérieure est féminisée avant le bas de l'échelle policière. Donc on a donc les concours d'enquêteurs et d'inspecteurs en 72, de commissaires en 74, de gardiens de la paix qui est donc en bas de la hiérarchie en 78, et d'officiers de paix qui est la hiérarchie des gardiens de la paix en 83. Et là, cette entrée progressive, hein, puisque c'est quasi expérimental, tous les 4 ans on féminise un grade, on voit si ça marche et puis on en féminise un autre, est assez respectueuse des coutumes policières dans le sens où elle reste un phénomène minoritaire. La féminisation de la police, comme celle de l'armée du reste, obéit à cette époque à des quotas restrictifs. Donc c'est un point assez peu connu des concours de la fonction publique. Certains concours de la fonction publique n'avaient pas des concours incitatifs, mais restrictifs pour les femmes. Et la police et l'armée en faisaient évidemment partie. Et donc, sous la pression c'est anticonstitutionnel. Sous la pression du Conseil de l'Europe, les quotas restrictifs sont abolis en 92. Mais ils restent de manière officieuse en action sous la forme des limites de taille discriminantes ou de barèmes sportifs assez élevé pour les femmes. Donc la notion de quota restrictif est demeurée. Il n'en demeure pas moins que les femmes se présentent en masse au concours de police à partir de cette date. Et depuis 1994, le nombre de candidates au concours de commissaire est supérieur à celui des candidats. Et en 2002, la parité est atteinte au concours externe. Il y a le même nombre de femmes admises avec des fluctuations. ce qui ne veut pas dire qu'il y a une invasion féminine, puisque aujourd'hui, en 2007, il n'y a que 16% de femmes policiers. Alors cette féminisation qu'on pourrait appeler contrôlée, puisqu'il y a des barèmes sportifs, il y a eu les quotas, il y a eu une féminisation très progressive, appelle plusieurs commentaires. Depuis 68, les femmes policiers suivent la même formation. Elles ont tout de suite été formées dans la mixité, donc au contraire des femmes dans l'armée. Elles disposent du même équipement de base que les hommes, donc pistolets, menottes, matraques. Depuis le début des années 80, elles ne sont plus cantonnées dans les métiers typiquement féminins, c'est-à-dire depuis 20 ans, elles sont largement sorties de la brigade des mineurs, où elles y étaient spécialisées depuis les années 30. Elles n'ont jamais été spécialisées dans aucune brigade que ce soit au grade de commissaire et de gardien de la paix. Autre fait singulier, elles sont proportionnellement plus nombreuses dans les corps de commandement que dans les corps d'exécution. Donc là aussi, alors dans ce paysage assez singulier au regard de la féminisation d'autres professions masculines, les femmes... il y a un bastion qui résiste, qui est celui des compagnies républicaines de sécurité. Pas toutes, puisque les compagnies républicaines de sécurité autoroutières, donc les motards que vous voyez, il y a des femmes qui sont présentes au grade de gardien de la paix. Mais aujourd'hui, donc, le seul lieu où les femmes ne sont pas admises, c'est au grade de gardien de la paix en maintien de l'ordre chez les CRS. On verra plus tard, mais j'y reviendrai, qu'elles y sont admises par contre en commandement. Donc ça fait partie aussi des éléments qu'il faudra essayer d'expliquer. Donc on peut affirmer de façon assez rapide qu'en ce début du XXIe siècle, les femmes ont acquis les pleins pouvoirs de police et qu'elles se trouvent donc pour la première fois officiellement, légalement et en temps de paix autorisées à être gardiennes de la cité. Et c'est un fait anthropologique inédit. Puisqu'auparavant, pour faire usage de la force sous une forme organisée et outillée, les femmes étaient contraintes au travestissement, à la clandestinité ou à l'exceptionnalité d'une période de crise ou de révolution. Donc là, on est dans un tout autre contexte historique et un policier sur six aujourd'hui est une femme. Alors, même si les principales intéressées n'ont le plus souvent nulle conscience de la transgression accomplie et ne vivent pas leur métier sur ce mode, leur entrée dans la profession sur ce mode, il n'empêche qu'un trouble est posé. C'est un trouble assez peu étudié en France, puisque contrairement aux pays anglo-saxons, cet accès des femmes dans la police a très peu retenu l'attention des sciences sociales. Donc, il y a vraiment très peu de recherches sur cette question. J'ai donc dû défricher moi-même ce terrain, tant du point de vue historique, puisqu'il n'existait pas d'histoire de l'entrée des femmes dans la police, que du point de vue sociologique, puisque ma formation est de sociologie, et aussi statistique, puisqu'il n'existait pas de base de données. Donc c'est pour cela que ma recherche a duré un certain nombre d'années, parce que j'ai dû constituer moi-même, trouver les archives qui avaient disparu, et pour raconter pas à pas la levée progressive de ce monopole masculin depuis les années 30. Alors, ce n'est pas de ce lent processus depuis les années 30 de normalisation des femmes policiers dont je vais vous parler aujourd'hui, parce que ça fait l'objet d'un autre livre là, dont je dois rendre le manuscrit. Je vais vous parler des femmes et des hommes des années 2000, donc celle d'aujourd'hui. Et donc, je voudrais avant tout, puisque j'ai affirmé que c'était un fait anthropologique inédit, vous montrer les quatre interdits anthropologiques que l'entrée des femmes dans la police permettait de lever. Alors, le premier interdit majeur est celui du port et de l'usage de l'arme. Les femmes policiers, comme tous les fonctionnaires de police, disposent d'un pistolet. Cet armement des femmes policiers n'est en rien isolé. Il s'inscrit dans une dynamique plus large. La féminisation de l'armée, amorcée à la même période, s'accélère également dans les années 70. Mais j'aimerais quand même revenir sur ce point précis, puisque en comparaison de l'armée française, où les femmes travaillent en majorité dans les bureaux ou dans des sections non opérationnelles, le recours à l'arme est plus quotidiennement éprouvé, au moins au sens physique du terme, par la majorité des femmes policiers, puisque le port de l'arme à la ceinture fait partie de l'uniforme. Et quand on interroge les femmes policiers, elles font bien la différence. Elles ne voulaient pas rentrer dans l'armée pour la plupart parce qu'elles auraient fait un travail du bureau. Dans la police, elles savaient qu'elles faisaient un travail de terrain. Dès lors, donc, l'armement des femmes policières vient perturber le monopole masculin, le quasi-monopole masculin des armes dont je vous parlais précédemment. Puisque les armes, non pas que les femmes étaient exclues des armes, mais elles utilisaient toujours des outils moins perfectionnés. Hein. Au mieux, je dirais, elles ont un couteau de cuisine ou je dis pas que les femmes, les anthropologues ont bien montré que les femmes pouvaient utiliser les armes, mais la nuance était du point de vue de la technicité de l'outillage. Et quand il y avait des femmes armées, il fallait une situation extraordinaire et cela concernait en général des femmes riches, veuves, célibataires ou à l'âge de la ménopause. Ce sont des femmes qu'on appelle des femmes à cœur d'homme qui ont été étudiées donc chez les Indiens Pigan et Ojibwa et dont Françoise Héritier parle dans son ouvrage. Donc en éloignant matériellement et symboliquement les femmes du maniement des armes, on maintenait un fossé technologique entre hommes et femmes. Donc dans cette logique, l'accès aux armes pour les femmes pourrait reconduire à un rééquilibrage des pouvoirs entre hommes et femmes. Il n'en demeure pas moins que cet interdit reste agissant d'une certaine manière dans la police, parce que les femmes policières sont certes toutes armées, mais elles s'entraînent en école de police avec une arme spécifique. Une arme qu'ils appellent l'arme féminine, qui est un pistolet à 5 coups. Or, cette arme, censée plus adaptée à des petites mains, disqualifie tout d'abord les femmes aux mains imposantes, qui disent qu'elles ont du mal à se mettre dans cette petite arme. Et en plus, elle est beaucoup plus difficile à manier. Comme l'espace entre chaque balle du barillet est plus large que dans un pistolet à 6 coups, il faut appuyer plus fort sur la gâchette, donc mettre 2 doigts, ce qui fait que les femmes donc, se trouvent à avoir, ça accentue l'effet de déséquilibre. Et donc, elles ont plus de chances de manquer leur cible, hein, si je résume techniquement la chose. Et en plus, elles disposent d'un coup de moins que les hommes en cas de fusillade, ce qui augmente leur handicap. Donc ce détail qui peut paraître totalement anecdotique est quand même assez significatif puisqu'on voit là comment une sorte de par l'outillage va s'opérer quand même malgré tout une distinction entre les hommes et les femmes sur le mode du ce qu'on pourrait qualifier du sous-équipement. Alors les femmes recrutées ne sont pas dupes et dès qu'elles manient cette arme donc féminine, elles envoient immédiatement le handicap et donc elles peuvent exiger d'avoir une arme masculine et une fois qu'elles sont en poste, elles peuvent tout à fait rendre leur arme féminine et récupérer une arme masculine, de même que certains hommes avec des petites mains prennent des armes féminines. Donc on a quand même une circulation des armes. Donc la distinction tentative de sous-équipement des femmes est désamorcée à ce niveau-là. Donc il faut étudier un second niveau, donc voir du côté des armes sophistiquées et donc étudier les brigades prestigieuses aux yeux des policiers, c'est-à-dire celles qui sont spécialisées dans la gestion, dans la force la plus outillée, la plus armée. Donc je vous cite plusieurs brigades et là il se trouve que c'est dans les brigades où il y a le plus d'armes sophistiquées qu'on trouve le moins de femmes. Donc les brigades anticriminalité qui sont en quelque sorte les brigades d'élite des commissariats de sécurité publique de votre quartier, les femmes y sont sursélectionnées. Or dans ces brigades ils font une habilitation pour le bâton de défense, le tonfa, donc ils disposent d'une arme supplémentaire par rapport aux policiers que vous voyez dans la rue. Les femmes sont également très minoritaires dans les breaks, je ne vous détaille pas le sigle, mais en gros c'est l'équivalent du RAID mais à l'échelle régionale. Donc c'est une brigade assez prestigieuse, on les qualifie de ninjas dans le jargon. Les femmes sont également très minoritaires dans les compagnies d'intervention, qui sont l'équivalent des CRS mais au niveau départemental. Elles sont un petit peu plus nombreuses, mais quand même minoritaires dans les services de protection des hautes personnalités, où on compte seulement quelques femmes. Et elles sont en revanche interdites de séjour, comme je vous le disais, dans les compagnies républicaines de sécurité, au grade le plus exposé à l'usage de la matraque, du bouclier, des bombes lacrymogènes, du fusil à pompe, à savoir les gardiens de la paix en maintien de l'ordre. Et il n'y a pas non plus de femmes, mais ça peut être changé, parce que depuis 2 ans, à ma connaissance, dans les services opérationnels du RAID, qui est un autre une autre brigade très, très spécialisée avec des tireurs d'élite notamment. Alors évidemment, dans une profession qui accorde une gloire certaine à l'ascension dans ces brigades à risque et qui considère l'armement comme, comme définitoire, je rappelle que les bobies anglais ne sont pas armés en France, la police est armée, les adjoints de sécurité ont été armés, c'est-à-dire les emplois jeunes, donc ça fait vraiment partie de l'identité du policier que d'être armé. Il va sans dire que cet accès aux armes pour les femmes est fondamental et constitue un sujet d'investigation important. Et donc elles ont franchi la première étape, qui est celle de l'armement minimal, ce qui en soi constitue une évolution majeure, mais par contre, dans les services spécialisés, dans l'usage de la violence la plus extrême, elles restent encore très, très sur-sélectionnées et doivent franchir beaucoup d'obstacles. Alors, dans un tel contexte, du point de vue symbolique, l'intégration des femmes dans la police peut être considérée comme totale lorsqu'elles ont réussi deux baptêmes du feu assez morbides, celui de tuer et d'être tuée, puisque là, c'est encore d'autres critères, si vous voulez, d'intégration, de degré d'intégration. Alors, la chronologie des faits veut que les femmes ont d'abord payé le tribut du sang avant de le faire couler. Donc, en 1991, deux femmes gardiens de la paix ont été tuées, l'une dans une fusillade, l'autre dans un rodéo. Et ces deux événements, encore une fois, sont loin d'être anecdotiques dans le processus de féminisation. C'est des moments décisifs, puisque ces deux événements vont permettre la levée des quotas restrictifs. C'est-à-dire que le Conseil de l'Europe, qui depuis une dizaine d'années demandait à la police d'arrêter les quotas restrictifs, à partir du moment où deux femmes en service vont être tuées sur la voie publique, les deux premières femmes, elles seront donc érigées en emblème de l'insécurité par les policiers. Elles seront élevées au rang de policier à part entière dans l'imaginaire policier à ce moment-là. Et donc, les quotas restrictifs vont... La police va accepter que les quotas restrictifs subis par les femmes au concours de police soient levés. Donc, on voit bien comment le tribut du sang, là, a joué un effet d'accélération. Quant aux femmes qui ont tué, c'est assez compliqué à pister, parce que j'étais obligée de passer par voie de presse, parce que les policiers ne sont pas extrêmement bavards, ni dans les archives, ni... sur ce que j'ai pu recenser, il y a une bavure qui a été fortement médiatisée, donc je vais peut-être vous passer les détails là, et sinon c'est en 2000, une dizaine d'années après, qu'une femme policier stagiaire a tiré un coup de feu mortel en intervention dans un cas de légitime défense face à un homme qui était armé d'un fusil à pompe. Le fusil à pompe n'était pas chargé, elle ne le savait pas, mais elle a tiré trois coups. Donc, dans tous les cas cités, en tout cas, ce qui était très important, aussi bien dans le traitement médiatique que dans la façon dont ces événements ont été reçus dans le monde policier, c'est qu'il est apparu que les femmes n'étaient pas à ce moment-là traitées comme des femmes, mais comme des policiers professionnels à part entière. C'est-à-dire que le fait d'avoir fait ce morbide baptême du feu permettait de dépasser les stéréotypes de sexe. Elles se sont en quelque sorte, on pourrait dire, virilisées à ce moment-là. Et donc, elles dépassaient l'interdit qui pèse sur les métiers d'armes pour les femmes, qui peut se résumer en ces quelques mots. Est-ce que les donneuses de vie peuvent être donneuses de mort, puisque la fécondité, le soin des enfants, puis le combat armé de l'autre avaient été depuis très longuement perçus comme antinomiques. Et donc là, c'est pour ça que je voudrais aussi insister sur cette dimension anthropologique, c'est-à-dire que les femmes policiers sont armées, qu'elles soient mères, en âge d'être fécondes ou pas. C'est-à-dire que toutes la plupart des exceptions historiques ou anthropologiques qui ont été recensées de femmes armées correspondaient à des femmes soit non mariées, soit des femmes stériles, soit des femmes ménopausées, soit des femmes veuves. Enfin, vous voyez, on est face à une toute autre configuration, puisque indépendamment de la maternité, depuis les années 70, les femmes ont accès aux métiers policiers. Et donc, évidemment, on ne peut pas séparer, à mon avis, l'évolution, enfin l'entrée des femmes dans la police d'un autre événement majeur dans l'histoire des rapports entre les sexes, qui est la maîtrise de la fécondité, précisément. Puisque à la même période, les femmes dans la police, à la même période, les moyens de contraception se massifient. Donc, on voit bien comment il y a une dissociation qui s'opère entre la mère d'un côté et les femmes de l'autre qui sont pensées comme sujets. Le deuxième élément transgressif de l'accès des femmes, que constitue l'accès des femmes dans la police, réside dans le commandement, l'accès au commandement. Comme je vous le disais, ce qui est assez singulier, c'est que la pyramide des grades est inversée. Il y a proportionnellement plus de femmes au sommet qu'au bas de la hiérarchie. Alors en 2005, il y avait 18% de femmes commissaires, 17% d'officiers et 14% de gardiens de la paix. Donc là, l'écart se réduit. Mais depuis le début du processus de féminisation, il y en a toujours eu plus au sommet qu'en bas de la hiérarchie. Alors, comment expliquer le fait que les femmes soient plus représentées dans les métiers d'encadrement? C'est-à-dire qu'on se retrouve avec une féminisation très atypique par rapport au reste de la société civile, où plus on monte dans la hiérarchie, moins on trouve de femmes. Là, c'est exactement l'inverse. Donc il fallait essayer de comprendre, d'expliquer cette exception policière, qui d'ailleurs n'est pas uniquement policière, on le retrouve aussi notamment dans les prisons. Il y a plus de femmes qui dirigent des prisons que des femmes surveillantes dans les prisons d'hommes. Alors cette distribution atypique s'explique par la force d'un tabou. C'est-à-dire que les policiers de terrain préfèrent promouvoir les femmes à leur tête qu'à la base, parce que c'est dans les grades d'exécution qu'elles sont le plus exposées à l'usage concret de la force publique et donc au risque inhérent de la confrontation à la violence urbaine. Et donc, du coup, on a un tabou qui en cache un autre. Enfin, la levée d'un tabou qui en cache un autre. Donc, il ne s'est pas forgé dans la profession de légende autour de l'inaptitude des femmes à commander. C'est même l'idée inverse qui s'est imposée, c'est-à-dire que les femmes seraient, au dire des policiers, plus doués pour le commandement que pour le travail de terrain. Et la première enquête, grosse enquête statistique et qualitative en 1982 avait vraiment montré, donc c'était au début du processus de féminisation, les gardiens de la paix préféraient avoir une femme commissaire qu'une femme gardien de la paix comme collègue. Et 20 ans après cette enquête, cette préférence pour une féminisation par le haut est toujours d'actualité. Et donc c'est un lieu commun dans la profession d'affirmer qu'il est plus facile de féminiser ou de surféminiser, voire même à parité, le grade de commissaire que celui de gardien de la paix. Et donc l'argument est le suivant, les femmes n'ont pas la force physique suffisante pour être polyvalentes et pour être ce qu'on appelle des hommes à tout faire, puisque c'est une autre définition du policier, c'est l'homme à tout faire, celui qu'on appelle quand plus aucune autre institution ne peut faire quelque chose précisément. Alors, du coup, il s'ensuit que les femmes dirigent des opérations armées, notamment en maintien de l'ordre. Alors, tout d'abord, tous les commissaires des commissariats de quartier, quel que soit le sexe, sont habilités à faire des opérations de maintien de l'ordre local et à commander aussi des CRS ou des compagnies d'intervention. Et donc, les femmes commissaires, au même titre que les hommes, dirigent des opérations de maintien de l'ordre. Et quand on les interroge, elles témoignent de cette prérogative et elles répètent la hiérarchie et les subordonnés disent aussi la même chose, la hiérarchie c'est la hiérarchie et donc à ce titre la femme n'est plus tant une femme qu'un supérieur hiérarchique qui commande. Autre preuve de la facilité avec laquelle les femmes ont pu être publicitées à des postes de commandement, c'est qu'elles sont promues à des postes de direction dans des brigades où elles n'ont pas le droit d'être exécutantes. Donc je pense par exemple à la brigade de répression du banditisme parisienne qu'on appelle l'anti-gang, qui est aussi une brigade très, très surarmée, très outillée, qui a été par exemple dirigée par une femme commissaire sans qu'aucune femme officier n'ait pu être intronisée dans ce service d'élite. Donc elle ne dirigeait que des hommes, elle n'a fait entrer aucune femme subordonnée. Et alors le dispositif est encore plus massif chez les CRS, hein, puisque là, encore, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, il y a des femmes dans les grades de commandement, au grade d'officier et de commissaire, il n'y en a pas au grade de gardien de la paix. Ce tabou est si fort et si puissant que quand on compare avec la gendarmerie, par exemple, on voit exactement le même processus. Donc c'est un parallèle assez... Donc l'équivalent dans la gendarmerie des CRS et la gendarmerie mobile. Et de la même manière, les femmes sont autorisées au grade supérieur d'officier, mais elles ne peuvent toujours pas être sous-officiers dans la gendarmerie. Donc on voit une sorte de situation assez inédite, hein, de femmes qui commandent des hommes dont elles n'ont pas le droit d'exercer l'emploi. Hein. Donc en se trouvant à des postes de commandement, les femmes opèrent une rupture notable avec ce que l'on sait historiquement des métiers d'armes, puisque la tâche du commandement de type militaire n'incombait pas aux femmes. Il y eut certes des exceptions sous l'Ancien Régime, mais comme je vous le disais, il s'agissait de femmes, donc de femmes qui chevauchaient à la tête des armées, mais qui étaient en remplacement du mari décédé ou absent, ou alors elles appartenaient à la noblesse, à l'exception notable de Jeanne d'Arc. Et les sociétés ethnologiques étudiées sont fondées sur le même interdit. Il y a des femmes qui accompagnent des hommes à la guerre ou à la chasse, mais elles ne dirigent pas ces opérations. Donc la nomination de femmes commissaires inverse cette logique de subordination. Alors la troisième transgression que j'ai pu mettre en évidence touche à la fois aux circonstances pratiques et historiques dans lesquelles les femmes exercent ce pouvoir de violence légale et ce commandement. Tout d'abord, c'est un exercice qui n'est ni restreint dans l'espace ni dans le temps. Quand la situation l'exige, hein, les femmes policiers peuvent intervenir dans un lieu public comme dans un lieu privé, de jour comme de nuit. Donc là, elles n'ont pas de limitation, au même titre que les hommes, de leur espace de travail. Par ailleurs, du point de vue historique, la féminisation de la police ne s'est jamais accélérée. Enfin, comment dire, n'est pas lié à des événements de guerre ou de crise politique. Et donc, on a une acquisition des pleins pouvoirs de police en temps de paix qui a permis donc d'inscrire cet événement dans la durée. Hein, et non pas on donne un pouvoir aux femmes qu'on confisque sitôt la paix ou la crise terminée. Ce qui, là aussi, donc il n'y a pas eu de caractère provisoire de l'entrée des femmes dans la police depuis le début du processus de féminisation. Ce qui, là aussi, est assez nouveau, dans le sens où la violence collective féminine a souvent été suspectée d'hystérie et donc a conduit à des stigmatisations et à des effets d'écartement politique. Hein. Donc la Révolution française en offre un exemple magistral, mais je ne vais pas le développer ici. C'est précisément, une fois que les femmes qui ont été décrites comme des furies, hein, des harpies pendant la Révolution, quand elles ont suscité un tel effroi, hein, qu'en 93, elles ont été, à l'occasion d'une rixe violente, dans le club des citoyennes républicaines révolutionnaires, les députés ont interdit les clubs de femmes. Et donc il y a vraiment une histoire d'exclusion des femmes à partir du moment où elles font preuve de violence. Là, on n'est absolument pas dans ce contexte. Les femmes policiers, dès les années 30, n'ont jamais été perçues comme une horde de guerrières armées, encore moins comme des Amazones qui allaient s'attaquer aux hommes. Donc, on est très loin de la figure de l'hystérie féminine qui pouvait prévaloir, qui a prévalu pendant un certain nombre de siècles. Même si on peut quand même penser que la mise en place des quotas pouvait lointainement renvoyer à cette histoire et à cette crainte et à ce tabou de la violence collective féminine. Donc, puisque les femmes, il est toujours admis et légitimement prôné dans la profession que les femmes doivent rester minoritaires. Et d'ailleurs, les deux sexes s'en félicitent pour l'instant. Une quatrième transgression doit être soulignée, puis c'est celle dont je vous parlerai plus spécifiquement aujourd'hui. C'est le fait que la spécialisation des femmes n'est pas un principe structurant du travail policier. Les femmes n'ont... c'est une mixité professionnelle qui s'est, depuis les années 80, qui s'est opérée avec une absence de ségrégation des tâches. C'est-à-dire qu'on n'a pas... elles exercent, elles ne sont ni spécialisées dans l'accueil, ni dans le contrôle des femmes battues ou l'accueil des mineurs. Et donc, c'est un point qui mérite d'être développé. Et donc, c'est ce dernier point sur l'indifférenciation des tâches. Indifférenciation approchée, et on n'a jamais d'indifférenciation, mais sur ce processus ou cette mise à distance d'une possible division sexuelle du travail que j'aimerais plus longuement développer. Et donc jusqu'ici, je ne vous ai pas du tout parlé de mon terrain, enfin du terrain sur lequel je vais m'appuyer, mais je pourrais y revenir plus tard dans les questions. Pour aller très vite, j'ai fait des enquêtes par entretien, principalement. Donc j'ai fait 130 récits de vie avec des policiers de tous grades. Donc j'ai interrogé 2/3 de femmes, 1/3 d'hommes, à Paris, en banlieue, à Lyon et à Marseille. J'ai fait des observations dans 4 écoles de police, dans un commissariat de sécurité publique, où je me suis concentrée sur la police secours, c'est-à-dire la police que vous appelez quand vous faites le 17. Et aussi, j'ai fait des enquêtes dans une police judiciaire de la région parisienne, où là, je me suis concentrée sur le travail des officiers en brigade financière et dans un groupe de répression du banditisme. Donc, c'était juste pour vous situer Là, je ne parle pas de l'enquête statistique qui est venue bien après, en fait, mes enquêtes qualitatives et que je ne mobiliserai pas aujourd'hui. Alors, parce que telle fut en effet la découverte de ce travail, pour le dire de manière assez caricaturale, les femmes policiers ne font pas de travail de bureau pendant que leurs homologues masculins sont sur le terrain. Hein, c'est une première chose auquel on pourrait s'attendre. L'organisation du travail suit d'autres frontières que celles entre les sexes. Alors, le premier élément qui contribue à empêcher l'instauration d'une division pérenne, enfin d'une division sexuelle du travail pérenne, tient au primat d'une distinction professionnelle très importante dans la profession de policier, qui est le poids de l'ancienneté. C'est l'ancienneté à la fois dans le poste et puis l'ancienneté, c'est-à-dire l'expérience, le nombre d'années. Et donc c'est l'ancienneté qui permet d'identifier les compétences de chaque policier et d'établir en situation un ordre de préséance entre pairs et parfois même entre subordonnés et supérieurs hiérarchiques. C'est-à-dire que l'ancienneté peut même faire que quelqu'un d'inférieur hiérarchiquement peut avoir un poids supérieur à un jeune, mais qui serait arrivé, qui aurait moins d'expérience. Alors je vous donne juste quelques exemples. Hein. La répartition des rôles dans les patrouilles de police secours est emblématique de cette priorité accordée à l'âge et au cumul d'expérience. Donc à Paris et dans l'approche banlieue, c'est moins respecté en province, mais c'est très respecté à Paris. Notamment, le rôle de conducteur et de passager n'est pas distribué de manière aléatoire. Le chef de poste désigne le chauffeur et le chef de bord, donc celui en fonction de l'ancienneté. Donc le chauffeur et le chef de bord sont les plus anciens. Et celui qui se trouve à l'arrière, qu'on appelle le sac de sable, c'est le plus jeune de la patrouille, parce que c'est précisément celui qui sera à côté du mis en cause ou de la victime, donc qui a la place la moins simple, en un sens, où le contact, je dirais, avec le délinquant est le plus fort, donc on le réserve aux jeunes. Alors les jeunes femmes, évidemment, apprécient particulièrement cet encadrement rigide, parce que ça permet très rapidement, en situation d'intervention, quand on doit rentrer dans une voiture, de savoir qui se trouve où et qui fait quoi. Là, j'ai pu constater le même poids de l'ancienneté dans une autre situation d'intervention, qui est notamment dans les auditions en police judiciaire. Là encore, le sexe n'apparaît pas comme un critère absolument déterminant. On va donner aux aux anciens, à ceux qui ont plus d'expérience, les plus gros poissons à interroger, entre guillemets, et aux plus jeunes, les criminels ou les délinquants qui sont le plus mineurs ou qui ont le moins d'importance dans l'affaire en question. Donc, pour résumer rapidement, on a plutôt une division entre jeunes et anciens qu'une division entre les sexes. C'est la division professionnelle la plus visible dans la profession. Deux autres éléments perturbent les tentatives de répartition sexuée des tâches. Ce sont les aléas de la rotation du personnel et les contingences de l'action en urgence. C'est-à-dire que les interventions menées par la gardienne de la paix en police secours sont particulièrement exposées à la gestion de l'imprévu, imprévisibilité des personnels disponibles, puisqu'en fait, ils tournent, hein, y en a qui sont en congé, il y a dans une même brigade, et imprévisibilité des événements, c'est très assez proche de ce qui a pu être décrit sur les urgences, notamment hospitalières. Celui qui n'a pas de tâche précise au moment où arrive l'événement et celui qui va prendre en charge l'événement. Donc on a une sorte de mobilisation du premier informé. Alors la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on ne retrouve pas malgré tout une division sexuelle du travail sur le terrain quand il y a des histoires qui semble s'adresser plus spécifiquement à des femmes. Donc je m'appuierai là sur un exemple qui est celui d'une femme qui était séquestrée par son conjoint. Et donc une brigade de police secours mixte avec des hommes et des femmes intervient pour libérer cette jeune femme, l'accompagner au commissariat, prendre en charge ses enfants et mettre en garde à vue le mari. Donc là, évidemment, c'était une situation typique où on peut imaginer la femme gagnant de la paix s'occupe de la femme, les hommes s'occupent de l'homme. Et cela s'est déroulé tout à fait autrement. Juste pour vous décrire la situation, un homme, une femme a pris l'homme et a fait un premier voyage pour l'emmener au commissariat. Et ensuite, un homme et une femme s'est trouvée avec la femme qu'il fallait ramener au commissariat, et elle avait des enfants en bas âge, et elle ne pouvait pas à la fois prendre ses valises, ses enfants dans les bras et descendre l'escalier, et donc il fallait absolument qu'un gardien de la paix prenne les enfants dans les bras. Et la femme gardien de la paix faisait toute une gestuelle d'évitement pour ne pas prendre les enfants dans les bras, et son collègue ne lui a pas imposé l'enfant à prendre dans les bras, ce qui fait que je me suis moi retrouvée, parce que je trouvais que ça prenait un peu de temps quand même pour descendre les escaliers, à prendre l'enfant dans les bras. La même situation s'est faite quand on est sorti de la voiture au commissariat, où là encore, la femme qui était vraiment mal en point, il fallait que faire sortir ses enfants. Et là encore, la femme policier est très ostentoirement est sortie la première, a pris les valises. Et donc, il restait le problème des enfants à prendre, qui ne marchaient pas, qu'il fallait bien prendre dans les bras. Et là, je me suis, moi, retrouvée à nouveau à prendre l'enfant dans les bras. Et j'ai compris pourquoi la femme policier n'avait pas pris les enfants dans les bras, parce que là, on m'a tout de suite dit « Alors, tu viens d'avoir des enfants ?» Quitte les affaires. Enfin, j'ai eu droit à toute une série de réflexions assez moqueuses parce que j'avais des enfants dans les bras, et donc je comprenais tout d'un coup pourquoi certains policiers s'étaient employés de façon très très significative à refuser ce rôle sexué qui lui était immédiatement, qui semblait lui être lui échoir, parce qu'elle précisément elle ne voulait pas être associée à une figure féminine d'assistante sociale qui s'occupe des enfants. Donc là, c'est un seul exemple, mais qui vous montre comment sur le terrain, il y a des recadras, des opérations comme ça d'évitement qui permet aux femmes d'éviter précisément d'être prises pour des assistantes sociales. Alors évidemment, pour que ce type de recadrage ait lieu, il faut la complicité aussi des hommes, hein, c'est-à-dire que l'homme aurait pu lui imposer, lui mettre l'enfant dans les bras. Là, ça a été très orchestré de manière assez fine, de l'homme policier ayant compris la situation de la même manière, et il a donc totalement assumer le fait qu'elle ne le prenne pas dans les bras, et il aurait pris l'enfant dans les bras si je n'avais pas été plus rapide. C'est évident qu'il avait collaboré au fait de ne pas reproduire ce stéréotype de sexe. Alors, l'autre point qui contribue à l'intégration des femmes tient au fait que les policiers exercent ce qu'on pourrait qualifier entre guillemets de un sale boulot. Enfin, c'est une notion enfin que j'emprunte à Hughes de Dirty Works, hein, dont le film d'ailleurs Dirty Harry que vous avez peut-être vu là, avec Clint Eastwood, l'idée de entre guillemets de souillure ou de sale boulot de la République, ceux qui font le sale boulot de la République, c'est les policiers. Et là encore, c'est une condition au sens quasiment comme on parle de condition féminine, une condition que partage l'ensemble des policiers, c'est-à-dire qu'ils sont associés à un travail qui n'est pas forcément aimé. Et il dispose aussi d'un monopole assez exorbitant et extrêmement... qui leur attire bien des campagnes de presse médiatique. Ils possèdent la force publique et donc ça comporte deux risques. Les policiers peuvent être tout d'abord tués intentionnellement et ensuite ils sont censés suspectés par l'opinion publique d'abuser de leur pouvoir. Et donc ces deux points, le risque de mort volontaire, hein, qui n'est pas le risque de mort accidentelle d'un ouvrier dans le bâtiment, le risque d'être tué intentionnellement d'une part et aussi d'abuser de déviance, hein, d'abuser de son pouvoir, crée une solidarité de corps extrêmement puissante dans la profession, tout grade confondu, quel que soit le service, il y a quelque chose de très partagé par les policiers. Et donc, du coup, ça crée une forme de famille, hein. Les policiers emploient les termes de maison, de famille pour se désigner les uns les autres. Et donc, on se retrouve dans l'organisation policière avec un fonctionnement assez proche de ce qui a pu être décrit par Zimmel à propos des sociétés secrètes. C'est-à-dire que c'est des sociétés très hiérarchisées, mais en même temps qui sont fondées sur une forme d'égalité fraternelle entre les membres. Il y a la connaissance de choses interdites ou de pratiques de pratiques interdites pour le commun des citoyens, mais qu'eux ont le droit d'exercer, peut faire disparaître toute une série de sources de conflits. Et là, les rapports entre les sexes bénéficient de cette sorte d'identité professionnelle consensuelle, hein, qui fait que les policiers font bloc et constituent un front de commune expérience avec des moments d'unanimité policière, notamment quand il y a des policiers tués en service ou des situations de danger, qui font qu'ils appartiennent à une même communauté d'émotions. Et là, c'est un point assez... fort de la qui peut expliquer l'intégration des femmes policiers. Alors cette relative indifférenciation qui favorise l'intégration repose néanmoins sur des conditions de fonctionnement qu'il faut expliquer, c'est-à-dire que je vais peut-être pas avoir le temps de tout développer. Ce que je voudrais dire, c'est que cette indifférenciation a des limites. Et la limite la plus forte, quand on analyse de manière structurelle à peu près toutes les situations policières d'intervention, la limite la plus forte à l'accès des femmes au terrain réside dans le nombre de femmes qui a la possibilité d'aller sur le terrain. C'est-à-dire qu'il y a une règle professionnelle non écrite, mais qui est extrêmement suivie, qui veut que une femme ne peut pas aller seule avec une autre femme en intervention. Une femme policière doit toujours être accompagnée d'un homme. C'est-à-dire deux hommes peuvent sortir ensemble en intervention, mais deux femmes ne peuvent pas sortir ensemble en intervention. Ce qui fait que ce n'est donc pas tant l'accès des femmes à la force publique qui est restreint que leur autonomie, en quelque sorte. Ça, c'est un fait assez français, puisque les patrouilles américaines, ils patrouillent tout seuls. Donc les femmes, de toute manière, patrouillent seules. En France, on patrouille en binôme. On sort souvent en binôme. Et donc là, on a vraiment une forme de position de minorité au sens non pas quantitative, mais de minorité comme de non adulte ou enfin non indépendant, qui fait que c'est une restriction majeure et c'est une coutume qui est en train de se réduire, surtout dans les commissariats où il y a beaucoup trop de femmes, notamment en région parisienne, où là ils sont obligés de faire tourner deux femmes ensemble parce qu'il n'y a pas assez le quota d'un homme et une femme n'est pas toujours respecté. Donc ça, c'est un premier point. L'autre élément qui va limiter cette indifférenciation, c'est le rapport avec le public. C'est-à-dire que si les femmes s'emploient à essayer de se montrer comme des policiers à part entière comme les autres, si les collègues collaborent plus ou moins, je dis bien plus ou moins parce que j'aurais pas le temps d'évoquer toutes les discriminations dont elles sont victimes par leurs collègues, mais elles sont malgré tout nombreuses. Donc Le public et les mises en cause, eux, par contre, font la différence entre les sexes. Et donc, les femmes, même si c'est par exemple elle qui a le plus d'expérience et qui doit interroger la personne, la criminelle la plus dangereuse d'une équipe, si cet homme refuse d'être auditionné par une femme, les policiers vont accepter ce contrat-là. Donc un mise en cause qui refuse de manière assez violente et virulente d'être interrogé par une femme et qui donc va faire des insultes sexistes, va donc obliger les agents de la force publique à recréer une division du travail et les femmes vont interroger un autre mise en cause et celui qui refusait d'être interrogé par une femme. Alors maintenant que j'ai posé les cadres, puis les limites, la neutralisation, la division sexuelle du travail, j'aimerais savoir un peu de quel modèle d'indifférenciation il s'agit. Puisque je vous ai montré que les femmes s'employaient à ressembler aux hommes, mais donc à quoi ressemblent précisément les hommes. Et donc l'un des points que j'ai beaucoup développé dans le livre, c'est la prédominance de ce que j'appellerais de façon courte le modèle viril. C'est-à-dire que le modèle viril continue d'être une référence dans l'exercice du métier, même si depuis les années 70, le modèle de la prévention, il y a eu aussi l'émergence d'une plainte policière. Beaucoup de policiers comme disent, on n'est pas des surhommes. Il y a toute une lame de fond qui tend à éroder le modèle viril. Il n'en demeure pas moins que les policiers font partie des professions qui mettent la virilité au centre de leur pratique et de leur identité professionnelle. Ne serait-ce que parce qu'ils sont, encore une fois, les seuls habilités à répondre à la violence par une violence codifiée, qui sont rémunérés pour endurer les coups et les injures, et que la violence est au cœur aussi de la définition de la virilité, puisqu'on peut la définir de deux manières, c'est à la fois la force, le courage, la capacité à se battre, mais aussi la disqualification du féminin, entendu comme mollesse physique et affective. Et donc, on retrouve ces deux points dans le métier. Alors, l'étude de la féminisation de la police, évidemment, permet d'interroger cette virilité. Comment les femmes intègrent ou apprennent cette virilité physique et mentale? Comment est-ce qu'elles la convertissent en compétences professionnelles? Et il est assez singulier, pas vraiment surprenant, de voir que les femmes policiers, comme les hommes, font de la démonstration de force et d'un certain courage un élément extrêmement important de leur intégration dans le métier, aussi bien du point de vue biographique que par rapport à leurs collègues. Et donc, il est extrêmement important pour les femmes d'avoir un élément ou un autre de virilité qui puisse les légitimer en tant que policier. Alors, je vais essayer de les énoncer très rapidement, mais je ne sais pas si je dispose encore de temps. C'est-à-dire que de voir quels sont les éléments de virilisation les plus fréquents qu'on trouve chez les femmes policiers. Donc, la virilisation commence par la fabrique d'un corps, qui est le premier outil de travail des policiers. La première étape pour les femmes consiste à se déféminiser. Cheveux longs, dénoués et bijoux massifs susceptibles d'être arrachés en cours d'interaction violente sont donc interdits par le règlement. C'est au grade de gardien de la paix et puis dans les postes où l'uniforme est obligatoire que cette métamorphose est la plus radicale. Quand on voit en école de police, les cheveux se raccourcissent, les signes ostensibles de féminité s'estompent. Et une fois en poste, les femmes apprennent très vite qu'il est indispensable de ne pas être qualifiée de Barbie, pour reprendre les termes, ou de secrétaire. C'est-à-dire qu'une gardienne de la paix se doit de ne pas veiller à la beauté de ses mains. Elle doit être prête à se casser un ongle, pour prendre encore des expressions qu'ils emploient. Elle doit pouvoir courir, sauter, monter sur un obstacle. Donc ça fait vraiment partie de leur identité professionnelle que de se fabriquer ce corps plus masculin. Et donc, évidemment, dans un tel contexte, on comprend que vous avez, j'imagine, jamais vu de femmes policières en jupe-culotte, parce que précisément, elles ont le droit de porter une jupe-culotte, donc qui est l'uniforme spécifiquement féminin, mais elles optent toutes, majoritairement, pour le pantalon, hein, qui est jugé plus proche de l'uniforme masculin. La seule fois, vous le voyez, c'est dans les défilés du 14 juillet. Et encore, je pense que ça ne doit plus être obligatoire. Cette déféminisation s'accompagne aussi d'un impératif de santé. Et là, sur ce plan, la santé est extrêmement importante dans la profession. C'est quelque chose qui est sanctionné par les médecins de la police nationale. C'est important pour le recrutement, pour la titularisation. Tout au long de la carrière, il y a un suivi qui ne doit pas être malade, qui doit être en bonne forme physique. Et là, sur ce plan, les femmes n'hésite pas à se présenter comme un effectif précieux, parce qu'elles vont battre en brèche le préjugé d'absentéisme qui les touche, elles vont souligner, donc là je vous passe les enquêtes statistiques qui ont pu être menées, les femmes sont moins malades que les hommes, et là elles n'hésitent pas en entretien, elles en font une vraie fierté à dire que les congés qu'elles ont pris, notamment les congés de maternité, sont bien inférieurs à ceux que les hommes alcooliques, cardiaques et dépressifs ont pu prendre. Et donc, elle remplace très avantageusement des hommes qui ont la mobilité réduite par le surpoids ou qui ont d'autres problèmes de santé. Donc, en fait, cette attention à la santé, cette mise en évidence de leur bonne santé chez les femmes policières n'a rien de, je dirais, d'une coquetterie. C'est précisément un moyen de montrer qu'elles ont précisément une disponibilité et que n'ont pas toujours les hommes, selon le principe qu'un homme malade est moins fort qu'une femme de stature moyenne, mais qui est en pleine santé. Alors, la possession d'une forme physique est une condition donc minimale, mais il y a ensuite la pratique sportive qui, évidemment, constitue un argument supplémentaire. Alors, les femmes policières, sur ce point, pratiquent un sport dans la même fréquence que les hommes, c'est-à-dire qu'elles sont tout aussi sportives que les hommes, mais elles ne pratiquent pas, il ne faut pas être caricatural, elles ne sont pas toutes championnes de karaté. C'est-à-dire que quand on voit dans le détail les sports qu'elles pratiquent, les hommes restent bien plus nombreux à pratiquer des sports de combat que les femmes. Mais les femmes policières sont plus sportives que la moyenne des Françaises. Donc en cela, elles correspondent parfaitement au profil recherché par les concours de police qui établissent des barèmes plus élevés qui ont très longtemps établi des barèmes plus élevés pour les femmes. Parce que pendant très longtemps, les femmes avaient des barèmes de rang national, donc équivalent à des barèmes nationaux pour les épreuves d'athlétisme, alors que les hommes, eux, avaient des barèmes régionaux. Donc en fait, elles étaient totalement sursélectionnées par rapport aux hommes. Alors les pratiques sportives ne constituent pas l'unique critère de jugement de la force physique, la stature a son importance. C'est une profession dans laquelle la taille est décisive. Les hommes et les femmes qui ont une grande taille, les mastodontes, pour reprendre une expression indigène, bénéficient d'un préjugé de compétence et de polyvalence. C'est-à-dire que l'uniforme, la possession d'une arme, d'une matraque, constitue certes une barrière dissuasive entre les policiers et les non-policiers, mais il est reconnu dans la profession que la stature et la corpulence est le premier outil de dissuasion dont disposent les policiers. Et donc les fortes femmes, au sens de non pas les grosses femmes, mais les femmes fortes, imposent donc le respect de leurs collègues, même si les préjugés sur leur infériorité physique demeurent. Là, je voulais signaler un élément important qui, au niveau symbolique notamment, qui est très visible dans les revues policières, c'est-à-dire que les policiers sont assez fascinés par les sportifs de haut niveau, qui donc ont droit à de nombreux articles dans les revues policières. Et donc, on voit là un engouement qui montre l'éclosion d'un regard individualisé sur les corps, c'est-à-dire qu'on n'a plus des corps nécessairement sexués, mais des corps qui est sportif de haut niveau, qui ne l'est pas. Et donc là, on voit une brèche se faire à travers ces femmes qui, notamment pendant la formation, sont capables de battre des hommes en self-défense ou dans des sports de combat. Alors la force de caractère constitue une autre qualité virile reconnue dans la profession, le sens de la répartie, la ténacité auprès des mises en cause, la résistance, c'est très important, hein, comme travailler 12 heures d'affilée sans montrer de signes de fatigue, la prise de risque, hein, sont également érigées en preuve de compétences professionnelles. Et sur ce point, les femmes, du point de vue biographique, hein, j'ai une entrée biographique puisque j'ai mené beaucoup de récits de vie, c'est un moment important dans les récits quand elles peuvent raconter cet acte de bravoure qui leur a attiré le respect de tous leurs collègues, alors que les hommes, dans leurs entretiens, insistent beaucoup moins sur cette dimension. Elles, c'est un point important parce que précisément, ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres professions, elles sont extrêmement testées et tout au long de leur carrière. C'est-à-dire que les femmes continuent de faire des tests. Comme il y a un préjugé d'infériorité physique, un préjugé de moindre résistance, elles continuent à faire l'objet de tests récurrents. Alors là, je voulais juste vous donner un exemple, encore une fois. Non, je ne pense pas que j'aurai le temps, mais je vais pas avoir le temps. Sinon, c'était juste pour vous dire qu'une fois j'ai eu le malheur de m'asseoir et que entre deux interventions dans la salle de repos, j'ai eu une réflexion assez désagréable d'un officier de passage, alors que une gardienne de la paix très ancienne, elle s'asseyait en mettant les pieds sur la table. Et à ce moment-là, j'ai compris pourquoi la jeune gardienne de la paix qui était à côté de moi ne s'asseyait jamais entre deux interventions. C'est-à-dire qu'elle restait debout toute la journée, enfin toute sa vacation, c'est-à-dire qu'entre deux interventions, elle revient au poste, elle ne s'asseyait que pour aller sur l'ordinateur. Et c'est quand moi-même, hein, j'ai compris qu'au moment où je m'asseyais, parce que j'étais nouvelle et puis considérée comme une stagiaire, et que j'ai eu cette réflexion, que j'ai compris aussi pourquoi cette stagiaire, enfin cette femme policière ne s'asseyait jamais. Elle était trop jeune pour avoir le droit de s'asseoir. Trop jeune femme. Il y a que les anciennes et les anciens qui avaient le droit de mettre les pieds sur la table et de s'asseoir. Donc là, c'était pour elle un test de force, de résistance physique. Donc il y en a beaucoup d'autres exemples, mais c'était pour vous donner une idée. Alors, ces mises à l'épreuve, évidemment, font que les femmes font une démonstration redoublée de leur sérieux, notamment à l'occasion de la maternité, notamment dans les grades assez élevés. Beaucoup de femmes disent ne pas avoir pris tout leur congé de maternité, avoir travaillé jusqu'au bout sans compter leurs heures, etc. etc. Donc il y a une véritable dureté, hein, qui s'instaure à ce moment-là et qui fait d'ailleurs que les femmes sont très dures envers leurs congénères. Il y a une obligation de prestance et de sérieux et de résistance qui fait que toute femme montrant des signes de fragilité va du coup avoir un mauvais effet sur l'ensemble des femmes policières, et donc elles sont extrêmement stigmatisées à la fois par les femmes et par les hommes. Un autre point qui contribue donc à cette virilisation des femmes policières, c'est le maniement de la langue verte ou du l'argot policier, qui est donc surtout au grade de gardien de la paix, où là aussi le fait de tenir des propos vulgaires peut constituer un gage d'intégration, parce que ça permet aux hommes de pouvoir se relâcher, d'avoir un langage plus relâché, et puis ça permet aussi aux hommes de savoir que les femmes vont pouvoir répondre vertement quand on leur parle vertement, quand les mises en cause leur parlent vertement, c'est-à-dire que les hommes vont pouvoir répondre du trac au tac sur le même ton. Ça, c'est un autre point qui permet aux femmes de s'affilier ou de mieux s'intégrer. Un autre point que j'ai pu constater, c'est le rejet de la dimension sociale du métier. Puisque les femmes sont présentées comme pouvant aider plus facilement les femmes victimes, les femmes battues, les femmes violées ou les mineures, elles vont, pour une partie d'entre elles, s'employer à dire qu'elles n'aiment pas faire ce qu'ils appellent faire du social. Et donc, souvent, il y a le stéréotype, les femmes, c'est bien pour les femmes battues. Et puis après, quand on interroge concrètement les policiers, et puis quand on les voit travailler, on voit comment une grande partie des femmes revendiquent son absence d'inclination pour les missions de prévention et de secours. C'est-à-dire, il y a une sorte de mise à distance volontaire de ce stéréotype qui est indispensable, qui est une dureté idéologique qui permet de ne pas passer pour une femme pacifique. Donc, je vais peut-être... Je voulais, j'ai pas le temps de le développer, mais j'aurais voulu vous parler des coulisses de la profession, c'est-à-dire que la virilisation, c'est pas uniquement le travail policier, c'est aussi l'accès aux pauses et aux fêtes et au toute la dimension festive du métier informel qu'on pourrait qualifier d'informel. Et là aussi, l'entrée des femmes dans la police, pour être pleine et entière, doit passer par cet accès à cette sociabilité. Là, qui est une sociabilité assez particulière, qu'on retrouve aussi dans les hôpitaux, aux urgences, mais qui, dans la police, prend un caractère assez sexuel, notamment. Et donc, là, évidemment, l'entrée des femmes dans ces positions très ambivalentes pour elles était assez significative. Hein. Et donc, j'ai pu observer des situations d'omniprésence de la sexualité. C'est un environnement très sexualisé, les commissariats, des affiches pornographiques aux discours, aux allusions, beaucoup plus sexualisées que d'autres milieux professionnels. Et donc, ça a donné. Et donc, ce désir omniprésent peut très paradoxalement, comme Jean-Claude Kaufmann a pu l'étudier pour la plage, où on a aussi là une situation assez inédite, hein, de nudité, de côtoiement des sexes. On arrive aussi dans les commissariats, du coup, à avoir une sexualisation tellement invasive que ça finit par être désexualisé et que donc on a des femmes qui ont des comportements qui pourraient paraître hautement à risque si elles étaient dans la rue de cette manière-là, mais qui là sont absolument tolérées. Hein, elles peuvent, donc c'était aussi un point qui m'avait semblé intéressant, qui était l'accès aux coulisses. Un accès aux coulisses risqué, donc je terminerai là-dessus, puisque le harcèlement sexuel est quand même assez développé. Je finis mon livre par un cas de viol, notamment. Donc, toutes les coulisses, en cas de dérapage, là, les femmes ne sont jamais protégées par leur institution. Donc, il m'a semblé que le cas des femmes policiers constituait un exemple empirique de recomposition des rapports entre les sexes et que ce fait de recomposition qui passe en partie par la virilisation des femmes était assez remarquable dans le sens où il ne faisait pas l'objet d'une stigmatisation sociale, ce qui est assez nouveau quand on voit ce qui s'est passé pour les premières femmes médecins, les premières femmes avocates et les caricatures dont elles ont pu faire l'objet. Là, on est à une autre période historique où ces femmes à cœur d'homme, pour reprendre l'expression de Françoise Héritier, sont tolérées.